La glaneuse que nous rencontrons aujourd'hui est Elisa Van de Kerkhove. Cette jeune journaliste bruxelloise mettra la parenthèse de la pandémie pour réaliser un premier projet tout à fait personnel, les Nouvelles Guerrières, où elle met en lumière les luttes féministes actuelles.
Le cinéma de femmes, c'est pas aussi simple que ça.
Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole.
Nous étions à 23% de femmes.
Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique.
Ça, c'est du cinéma.
C'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée.
On est la deuxième moitié de l'humanité. Notre regard manque dans le monde.
Alors, moi, je suis née à Bruxelles. J'ai fait mes études à l'ULB. Et puis, j'ai fait un second master après journalisme dans le documentaire vidéo à Londres. J'ai bossé là 2 ans et je suis revenue pour un taf à Bruxelles. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. D'ailleurs, ma mère m'avait dit, écoute, fais quelque chose que t'aimes. Et donc, j'ai fait un BA en langue et littérature moderne anglais-espagnol. Et en fait, le problème, c'est qu'au bout de trois ans, je me suis dit, c'est sympa, les langues, mais je... Et il y avait une passerelle pour journalisme. Je me suis dit, mais c'est cool, en fait. Je commençais à être un peu plus éveillée, un peu moins auto-centrée. Je me suis dit, bah, journalisme, c'est peut-être un chouette switch, quoi. Et là, j'ai découvert la caméra. On avait des workshops assez simples, c'était pas vraiment une école supérieure vraiment axée technique, mais ça m'a donné le goût de la caméra, des interviews, des rencontres. J'ai fait en fin de master en journalisme, on avait le droit de faire un mémoire appliqué, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des pages, on pouvait réaliser un documentaire ou réaliser une émission radio. Et moi, je me suis lancée dans ce docu et j'ai adoré faire ça, quoi. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est bête, il me manque quand même de la technique, ça vaudrait peut-être le coup de creuser. Et donc j'ai embrayé sur un master d'un an cette fois à Londres pour me perfectionner en fait dans l'image, dans la technique, etc. Quand je suis revenue de Londres pour cette agence de communication, on m'a engagée en tant que journaliste vidéo. Donc je travaille pour un des groupes du Parlement européen qui était un de leurs clients. Et puis graduellement, on m'a mis sur du montage, mais pour un peu des grandes marques belges et étrangères. Et donc c'était super chouette parce que moi je faisais mes armes, comme je disais. Et 4 ans plus tard, je me suis fait des super potes qui étaient extrêmement pros et qui m'ont beaucoup appris aussi au sein de l'équipe. Et je me suis dit, allez, je me lance à mon propre compte, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à faire... Je me souviens, ma toute première vidéo, c'était pour Cyclo, la SBL Cyclo, que c'était une amie d'une amie qui était chargée de com là-bas. Et c'est ma première vidéo en tant que freelance. Et puis après, ça s'est un peu éclaté. J'ai eu graduellement 2 créneaux. L'humanitaire, les ASBL, les ONG, Médecins du Monde, Île de Paix, etc. C'était super cool parce que je voyageais. Et alors, en parallèle, j'ai commencé à faire des vidéos plus dans le culturel, donc des vernissages, des expos, puis des concerts, des captations, des festivals. Et donc ça, c'était un peu mes 2 gros créneaux, quoi, culturel et ASBL, ONG. Et malheureusement, quand le Covid est arrivé, ben, les 2 créneaux sont tombés complètement à l'eau, quoi. Je pouvais ni voyager, ni rencontrer des gens, je pouvais plus filmer. Et c'est là que j'ai entrepris mon premier documentaire, Les Nouvelles Guerrières.
Jusqu'à il y a très peu, c'était ultra banalisé quand même. Tout ce qu'on est en train de dire là, on n'en avait même pas conscience il y a 5 ans. On se disait juste, oui, il y a un truc qui cloche, on ne sait pas marcher en rue sans qu'on nous fasse chier. Et c'est que maintenant qu'en fait tout le monde se réveille et se dit, oui, c'est vrai qu'il y a un problème.
Le féminisme en Belgique, c'est le palais de justice en travaux depuis 50 ans.
Le thème du documentaire... C'est vrai qu'il est un peu tombé comme ça. J'étais pas une militante convaincue, j'étais féministe, je crois, sans même le verbaliser. Mais j'avais une ex qui était féministe, militante, qui faisait des études de genre, et donc du coup qui m'a énormément ouvert au milieu, au monde, à plein de théories, à plein de personnalités, etc., de ce milieu-là. Et puis, il y avait quelques collectifs que je connaissais, genre Laisse les filles tranquilles, La Fronde, parce que voilà, les réseaux aidants, j'avais un peu été les suivre. Et en fait, je ne sais pas, je me suis dit à un moment donné, ça pourrait être super cool de creuser, quoi, parce que moi, ça me titille, c'est un sujet qui a l'air de stimuler beaucoup de gens à l'époque ou en 2020. Et donc, j'ai commencé à les contacter, à les trouver, à leur envoyer des mails. Et donc, graduellement, j'ai commencé à monter une liste de personnes intéressées. Ce documentaire, c'est fou parce qu'il m'a complètement changé, quoi. Sincèrement, en 2 ans, je ne suis plus du tout la même personne. Et ça m'a fait énormément de bien. Parce que ce qui m'a vraiment touchée en fait, au fil des rencontres, c'est ce message à l'unisson en fait, que tous les collectifs portaient. En fait. C'était énormément varié, et elles faisaient un peu plein d'actions différentes dans plein de domaines différents, que ce soit du vélo, des collages, des visites guidées féministes, des visites guidées décoloniales. Et ça m'a subjuguée parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, là, je m'aventure un peu dans l'inconnu, j'imagine que certaines auront des opinions très tranchées, et puis d'autres machins, et en fait pas du tout quoi. C'était effarant parce que les collectifs se connaissaient tous entre elles, entre eux. Cette intersectionnalité, c'est ce qui m'a le plus touchée quoi. Vraiment qu'elles défendent toutes les femmes, mais aussi toutes les minorités et toutes les personnes qui souffrent dans ce système patriarcal. Plus je les rencontrais, plus ça me stimulait, plus j'étais là, ah mais génial, mais ça se recoupe, et puis en fait, ça, ok, je comprends. Enfin, il y a eu vraiment un vrai engouement à me plonger dans leurs actions et dans ce qu'elles avaient à dire. C'est hallucinant à quel point les choses se sont mises de manière organique. C'est-à-dire que plus on abordait des thèmes de harcèlement, de racisme, plus en fait l'actu était bouillante et liée à ces thèmes-là. Il y a eu la polémique des statues coloniales, il y a eu effectivement George Floyd. Et en fait, du coup, naturellement, je me suis dit, là, on ne peut pas parler de féminisme décolonial et interviewer le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations sans aller à cette manif et pouvoir illustrer en fait ce qui se passait pour vraiment appuyer leur dire et montrer qu'en fait c'était hyper actuel et hyper présent quoi. Ou alors c'est moi qui me rendais pas compte qu'en fait tous ces thèmes là au quotidien avaient lieu et là en me plongeant dedans je crois qu'il y avait aussi des choses que je n'avais pas réalisées, que je ne voyais pas aussi ou que je ne voulais pas voir. Et une fois qu'en fait on tombe dans ce monde là et qu'on se rend compte que c'est trash, c'est complètement impossible de ne plus y penser. Quand je disais que j'étais plus la même qu'il y a 2 ans, je sais que j'ai complètement renouvelé mon cercle d'amis aussi. Il y a des choses qui ont été un peu chamboulées dans ma façon de voir les gens, voir les choses. Et c'est-à-dire qu'en fait les personnes que j'ai rencontrées, c'est-à-dire les déchaînés, enfin la fronde, beaucoup de ces membres sont devenus des amis. Et donc par la force des choses, je crois que quand on renouvelle un cercle d'amis, y a une sorte de tri qui se fait naturellement quoi. On commence à traîner peut-être un peu plus avec certaines personnes, et donc on néglige peut-être d'autres qu'on voyait plus régulièrement avant. En toute honnêteté, Ima Ziren et Fatima Zora que j'ai rencontrées, ça a été la plus belle claque au niveau de la réflexion que ça a eu sur ça, et de l'impact que ça a eu sur moi. Donc j'ai rencontré Ima Ziren lors de leur manifestation Hijab Fights Back. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas déconstruites et que je ne comprenais peut-être pas vis-à-vis du port du voile. Les personnes que rassemble le collectif sont des personnes issues de l'immigration, généralement, maghrébines, religieuses ou pas. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important. C'est la mixité choisie, effectivement, est quelque chose de super récurrent pour tous les collectifs que j'ai interviewés. Et à leur contact, en fait, ça m'a bouleversée. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient complètement inadmissibles et que j'avais emmagasinées et que j'avais accepté de manière inconsciente. Et c'est vrai qu'Ima Ziren lutte pour ça là, dans la rue à ce moment-là. Elles étaient là pour lutter contre ça, mais elles font énormément de workshops de décolonisation sur des thèmes liés à la religion, au sexe, à la femme, à la misogynie. Enfin, elles brassent vraiment énormément de sujets et c'est souvent dans des safe spaces qui leur permettent de s'exprimer, soit pour parler de choses qui nous sont arrivées de manière... Enfin, des choses trash qui nous sont arrivées, soit pour essayer de prendre... un peu confiance quand il s'agit de réparer des vélos sans être un peu opprimé ou oppressé par des mecs qui, sans vouloir, veulent prendre de l'espace, c'est hyper important, quoi. Et on voyait que ça faisait beaucoup de bien aux personnes qui étaient là.
En fait, il y a plein de mecs qui, de façon complètement non sollicitée, viennent te perturber. Alors, comme si c'était pas légitime que tu sois juste là en train d'exister dans l'espace public. Et une fois que tu t'en rends compte, tu peux plus ne pas le voir, en fait. Et c'est vraiment inacceptable. Enfin,
je me sens menacée, des fois, avec un regard. C'est chaud, quand même.
Une fois, on s'est fait agresser, à un moment donné, quand on collait avec la fronde. Et alors, là, c'était assez violent. On a dû interrompre, d'ailleurs, la virée collage, parce qu'on était un peu perturbés et que c'était très agressif. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en dehors de cela, toutes les interviews, mais toutes, hein, donc il y avait 9 collectives, les 9 fois où on s'est posé dans un espace public pour réaliser cette interview qui durait au moins une demi-heure, une heure, eh bien, il y a quelqu'un qui est venu nous emmerder. C'était soit des flics, soit des mecs bourrés, soit des mecs qui avaient quelque chose à dire parce qu'ils étaient là à côté et ça faisait 20 minutes que ça les démangeait de dire quelque chose. Soit c'était juste de manière hyper agressive en pensant qu'on les filmait. Enfin, il y avait toujours une excuse pour venir devant la caméra ou déranger l'interview qui se passait entre femmes. Et là, je me souviens que ça, je me suis presque dit, mais il faudrait utiliser ça, quoi. Une sorte de, à un moment donné, un petit twist, m'amuser à... à montrer en fait cette violence dans l'espace public à partir du moment où une femme reste plus de 20 minutes statique à un endroit. Et puis je me suis dit que j'allais pas le faire parce que on n'avait pas le temps, qu'on n'allait pas leur laisser de l'espace inutilement, que j'aurais pu consacrer ces quelques minutes en plus à leur discours. Donc je ne l'ai pas fait. Mais ça m'a... je me souviens que j'avais une séquence en dérochant sur mon programme de montage avec toutes les interventions des cons pendant les interviews. Je cherchais un titre pour mon documentaire. Je me souviens que j'étais avec la fronde dans le parc derrière Tour et Taxi où on a réalisé l'interview. Et je commençais un peu à échanger avec mes idées qui étaient un peu nulles. Et en fait, dans la fronde, il y avait une traductrice qui écrit beaucoup, qui lit beaucoup. Et là, à un moment donné, l'une d'elles me dit « Mais Elisa, t'as lu Les Guerrières de Wittig ?» Je fais « Non ». Et donc, Monique Wittig, qui est une féministe qui a écrit en 69 « Les Guerrières », est un roman qui parle d'une communauté de femmes qui a fui l'homme pour se reconstruire ou déconstruire les images en fait qu'on leur renvoyait dans ce monde, et donc elles partent pour s'isoler et se reconstruire et se refaire se redéfinir quoi. Et donc guerrière, le titre est écrit avec deux L, et donc il évoque un peu le côté guérilla, guerre, rébellion, quoi. Et je trouvais ça super parlant, donc je l'ai lu. Je me suis dit, pourquoi pas Les Nouvelles Guerrières, ça pourrait être pas mal pour parler de cette nouvelle vague et de ces nouvelles femmes qui reprennent la rue. J'ai eu des critiques parfois lors des projections où des personnes plus âgées me disaient, voilà, c'était super intéressant, mais à nouveau, où sont les anciennes générations? Et je leur réponds que c'est vrai que c'est dommage, mais c'était vraiment un pris parti de mettre en avant les nouvelles générations, parce que moi, du haut de mes 35 ans, j'étais bluffée par l'éveil, la curiosité, l'intelligence des personnes d'une vingtaine d'années. Comme je disais, moi, à cet âge-là, j'étais hyper auto-centrée, pas du tout au fait, alors okay, Internet n'était pas encore vraiment... Mais je veux dire, les réseaux n'étaient pas encore vraiment développés, mais quand même, quoi. Il y a des choses... ça donnait énormément de pêche de voir que cette jeune génération était au taquet, quoi. Il y a vraiment une sorte de... Déjà de connaissances, elles se connaissent toutes entre elles. Il y a aussi l'envie de pouvoir partager certains combats. Donc à la mort d'Adil, la fronde avait été mettre des messages dans les rues. Enfin, il y a une sorte de croisement aussi de combats. Et ça se ressent très fort, même si leurs actions sont totalement isolées ou qu'elles ne se sont jamais rencontrées. C'est vrai que ça, c'était... C'était super jouissif, et c'est d'ailleurs en fait comme ça, quand j'ai pris contact avec les collectives, par curiosité, c'était « Ah, mais il y aura qui d'autre ?» et tout. « Ah, mais génial, mais elles sont super, mais attends, mais c'est trop bien, ah, mais alors évidemment qu'on est là !» Et là, je me suis dit « Ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les présenter entre elles, quoi. » Donc je me suis dit « Bah, on va peut-être prendre pour ce parti-là, quoi. » Déjà montrer que, enfin, elles se connaissent, et il y a quelque chose de fort qui se dégage de cette communauté, quoi. Mais globalement, c'est vrai que leur lutte est similaire, mais leurs projets sont super uniques, et ça brasse, ouais, beaucoup de disciplines, beaucoup de domaines. À beaucoup de niveaux, donc ouais, c'est vraiment chouette.
Force est de constater qu'ici en Belgique, l'enseignement de l'histoire coloniale et la connaissance même de l'histoire coloniale n'est pas du tout un fait, c'est pas du tout obligatoire à l'école. On peut très bien avoir passé toute sa scolarité sans en avoir jamais entendu parler. Et en fait, il y a une relation qui est vraiment filiale entre cette histoire coloniale et les discriminations auxquelles une grande partie des afrodescendants de Belgique ont à faire face.
J'ai décidé pour les interviews de mon documentaire de filmer toutes les intervenantes en contre-plongée. C'est simplement parce que la contre-plongée permet en fait d'appuyer et de donner du poids en fait à la personne que l'on voit. Et donc voilà, c'était tout simplement pour leur donner encore plus d'espace et leur donner plus de force à l'image. Si j'ai décidé de parler un peu que de Bruxelles, c'est vrai que, premièrement, c'est parce qu'on était en plein Covid. Donc, on était déjà un peu enfermés, hein, c'était compliqué déjà de sortir de chez soi. Alors, sortir de la ville, c'était d'autant plus compliqué. Maintenant, pour être honnête, j'avais envie de faire ça dans ma ville. J'aimais bien l'idée de montrer ce qu'il y avait dans la capitale, parce que c'est un endroit que j'affectionne. Puis alors, mon néerlandais n'était pas impeccable. Et c'est vrai que voilà, j'avais peut-être un peu la crainte de ne pas assurer aussi dans la région flamande. Donc je me suis dit, je me cantonne à Bruxelles et puis on verra bien. Donc je me suis lancée dans cette autoproduction. Je me suis dit, sur mon temps libre, je vais filmer. À ce moment-là, à aucun moment, je me suis dit que ça allait avoir une portée ou quoi. C'était vraiment pour moi, pour un peu me tester, un peu me dépasser, faire des trucs que j'avais pas encore fait, de l'étalonnage, des plans un peu plus léchés, des choses plus construites, un format plus long aussi. Et en fait, il a un peu attiré la curiosité de certains festivals quand à un moment donné, je l'ai soumis au Pink Screens, qui avait lieu 2020 en novembre. En été, je me souviens que j'avais déjà quelques rushs et je l'ai envoyé. Et ils étaient intéressés. Donc là, bouchée double, une petite confiance en moi. Je me dis, hey, ok, c'est super cool et tout. Il est sectionné, donc il faut que je termine. Et les Pink Screens ont été annulés à cause du Covid. Il y a eu reconfinement. Mais voilà, en fait, entre-temps, la semaine du 8 mars allait arriver. Je crois qu'on était début 2021. Et j'ai une amie qui est productrice et qui me dit, écoute, Elisa, maintenant que je l'ai vue, c'est con. Moi, j'ai des contacts. Peut-être qu'on pourrait leur demander si, par hasard, ils veulent pas le diffuser, quoi. Et je crois que la RTBF n'avait pas vraiment... beaucoup d'idées pour la semaine du 8 mars et donc était ravie d'avoir un documentaire féministe tout chaud à pouvoir publier sans droit trop se bouger. Et donc j'exagère un peu, mais je crois que c'est chouette. Il y a eu un chouette équilibre et un chouette, chouette hasard heureux qui s'est placé. Et donc c'est vrai que, étant donné que c'était pas c'était une autoproduction, j'ai quand même été payée, mais peut-être pas avec les mêmes deals que normalement là, mais moi trop bien quoi. Parce que c'est vrai que. Je ne faisais rien de mes journées, donc j'étais heureuse de me balader, d'aller filmer. Mais après, j'ai quand même engagé une pote qui a mixé tout le son, parce que c'était des amis qui tenaient le micro, la perche, pendant les interviews, et que parfois, c'était pas top top. Ensuite, j'ai voulu faire un travail de traduction, de transcription, de sous-titrage. Donc voilà, moi, je l'ai fait partiellement, et puis je l'ai filé à une boîte de sous-titres exclusivement féminines. Et tout ça, c'était un peu de ma poche, quoi. Je leur donnais. Alors après, les personnes avec qui j'ai bossé étaient hyper cool, et voilà. Mais c'est vrai que ça a fait plaisir qu'il y ait eu un petit retour et que du coup la diffusion m'ait aidé à me rembourser, quoi. Il est passé à la TV le 8 mars. Et puis je me dis bon ben l'arrivée de l'été, les salles réouvraient et tout. Le documentaire, il y avait tellement de choses à projeter, tellement de films en attente de pouvoir être diffusés que je me suis dit bon voilà. Et en fait non, il y a eu un petit regain d'intérêt, il y a eu des gens qui m'ont dit ah Lisa, nos salles réouvrent, ah il y aura tel festival cet été, est-ce qu'on peut le diffuser. Et donc il a continué à tourner, il y a eu bien 20 et 30 diff dans le cadre de festivals, de soirées de projection féministes et tout. Et là ça a continué à tourner, je suis super contente, il est passé à Toulouse la semaine dernière. J'ai une réponse aujourd'hui pour Orléans et il sera à Milano dans un petit festival queer, tout simple, mais ça fait plaisir quoi. Genre vraiment, je suis trop heureuse que ça continue de tourner quoi. Les retours que j'ai eus par rapport à mon documentaire, c'est de un, effectivement aussi des personnes ultra différentes, de niveaux sociaux différents, d'origines différentes. Donc c'était hyper rassembleur et je me suis rendu compte que ça c'était chouette vraiment et que c'était hyper important d'appuyer cette représentativité dans le film. Et oui, la chose qui revenait de manière récurrente par rapport aux commentaires des gens qui l'avaient vu, c'était mais ça donne la pêche, ça donne envie de s'engager, de s'enrôler. Nous aussi, on veut bouger. Ça donnait, c'était empouvoirant quoi. Les personnes me disaient ah mais waouh, ok, je me sens moins seule. Ça fait du bien de voir que Bruxelles bouge, qu'il y a des femmes qui sont là. Moi ça m'a énormément ému que du coup ça avait été rassembleur en tout cas pour le public qui l'avait vu et qui était revenu vers moi quoi. Sur Instagram, j'ai eu plein de retours de gens que je connaissais pas qui me disaient merci, c'était trop bien, nanani. Enfin, moi-même, je m'y attendais pas, ça m'a hyper fort ému. Et donc, sincèrement, globalement, beaucoup de retours positifs. Et oui, quelques petites remarques parfois, surtout des hommes qui venaient voir les projections, même s'ils n'ont pas été très nombreux. Mais globalement, il y a eu aussi des retours super de gars. Enfin, je veux dire, il a été vraiment bien accueilli globalement et ça m'a très, très fort touché. Maintenant, c'est vrai que pour être honnête, la plupart des festivals ou des projections où il était programmé étaient soit queer, soit féministes. Donc sincèrement, oui, il y avait quand même un entre-soi qui a eu lieu. Mais heureusement, en fait, il y a quand même eu la télé, quoi. Je sais que ma grand-mère l'a regardé, enfin mes parents. Et j'espère en tout cas qu'il a touché un autre public et que même si ces personnes n'ont pas tout aimé, que ça ait au moins titillé quelque chose en eux, quoi, parce que c'était le but. Alors si je me qualifie de vidéaste, c'est que je crois que, déjà parce que c'était vraiment ma plus grande, mon premier vraiment documentaire et du coup ma vraie première casquette de réalisatrice. Maintenant, le truc c'est que j'étais pas juste réelle quoi, j'étais derrière la caméra, j'étais au montage et j'aimais bien l'idée que ça englobe plusieurs tâches quoi, que je n'étais pas juste cantonnée à un rôle. Au fil de mes projets en tant qu'indépendante, je me suis graduellement vraiment rapprochée de projets qui étaient... qui était queer, qui était pour des ASBL contre l'homophobie et pour des événements dans ce milieu-là. Et je me suis rendu compte que je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Peut-être parce que je le suis moi-même et que du coup, c'est un peu donner la voix à ma communauté, à les aider d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être qu'aussi, c'était pour accentuer le fait que j'avais envie de me développer dans ce créneau-là aussi, dans ce milieu-là. Et je crois que c'est important aussi de se mettre un peu en avant, de pas s'invisibiliser, de dire qu'on peut être vidéaste et aussi queer et que parfois, ça fait du bien de le lire ou de le voir ou d'en parler. Je fais partie maintenant d'une des collectives et donc, je suis un peu plus active dans mon militantisme. Avant, j'allais à des manifs, je sortais pour le 8 mars, mais j'avais pas cette niaque que j'ai maintenant, ou plus l'envie de sortir dans la rue ou d'aller aider tel ou tel organisme ou collectif. Donc, ouais, je suis plus militante maintenant. Ouais. L'idée, c'était vraiment de montrer toutes les actions qui avaient lieu. Et je me souviens que voilà, j'ai un peu réalisé le film au montage. Mais j'avais pas vraiment de plan avant d'écrit. Et c'était aussi important de parler aussi de ces actions, mais de manière aussi posée, d'expliquer aussi les limites de pourquoi est-ce qu'on peut ne pas le faire et pour pas non plus oppresser les gens pour qui ça, voilà, c'est peut-être trop ou c'est peut-être éreintant. Je sais pas à quel point ça évolue. Je crois que la société, oui, elle évolue hyper lentement, mais j'ai quand même l'impression que il y a des termes qui commencent à être vraiment acceptés. Comme on disait, les nouvelles générations sont vraiment curieuses et plus ouvertes, j'ai l'impression. Donc maintenant, de là à dire que tout va mieux, c'est quand même encore compliqué, quoi. Là, je suis sur la production d'un deuxième documentaire. Et donc voilà, le prochain documentaire, il parlera de transidentité, de non-binarité et de performance. Donc à travers l'art, parler de ces identités de genre.
Venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur synergie.be et sur vos applications de podcast.